Ultime branleur, on a accroché aucune des photos de la saison 3. Hein.
C'est vrai. Mais je sais plus où j'ai mis la pâte à fixe, faut que j'en rachète. Mais je pense qu'on va finir la poutre à cette saison. Voilà.
Titre ?
Qu'est-ce que c'est ce machin ?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça ? Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Ce qu'il dit !
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Juan.
Coucou.
Hello, bon retour.
Merci.
Hicham.
Bien le bonsoir.
Et Camille.
Salut.
Comment allez-vous tous?
Bon, pète le feu.
Ça va.
Ah, c'est plaisir.
Ça va.
Et toi?
Bah, enfin, ça y est, on reprend les... Les trucs cool.
Il sait plus comment faire son running gag.
C'est ça.
Mais non, c'est pas running gag, c'est trop bien.
Si, un peu, si.
Oui, c'est pas comme si ça fait juste deux heures qu'on est là, qu'on s'est à parler et qu'on a pris
oui,
des
mais
nouvelles.
Est-ce que tu m'as demandé? Bon, oui, ok, mais personne ne le sait ça. Non, mais ça fait plaisir. En plus, c'est le retour de Juan et puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit épisode à 4.
C'est
qui, Juan?
Ah, la personne à ta gauche.
Eh ben, nique toi.
Voilà, très bien, dans la joie et la bonne humeur. Mais comment allez-vous, la vie?
Très bien.
Et les enfants, la baisse?
Très bien.
La baisse.
Ça va, ils marchent.
Bah, c'est fou, hein.
Ouais.
C'est con que ce soit pas
ça...
les tiens, par contre.
Ouais, non, gaffe. Ça grandit vite.
Pense à les rendre, quoi. Ouais. Ça ne se fait pas normalement. Et Camille, ça va?
Ah, bah oui, oui, oui. Ma vie est un beau fleuve de concoyotes.
Ok, donc plutôt l'enfer, quoi, globalement. Tu peux le dire, ça va pas, tu peux en parler, on est là
non,
pour ça.
Non, la joie.
Est-ce qu'il y a des gens qui mangent de la concoyote en été?
Ouais, je pense. Toi, l'auditeur qui nous écoute, si tu mets de la concoyote dans ta salade, bah dis-le nous.
Mais tu peux voilà. Pas.
Enfin, mais bien sûr que si. Tu fais... Mais si, tu fais une salade. Tu mets des petits morceaux de morteau. Et tout, et tu saupoudres de concoyote à la louche.
Je peux pas voilà. Saupoudrer.
Ah, on vous partagera.
Dans saupoudrer, il y a poudre.
On vous partagera les recettes de Camille.
Absolument.
Dans les news, que s'est-il passé? Que va-t-il se passer? Dans les news, on a eu des magnifiques dessins. Si vous nous
oui
suivez, si vous nous suivez sur Twitter, on a eu des magnifiques caricatures qui ont été faites par Jibaf Flost. On vous partagera ouais. Le lat.
Merci.
Magnifique. Il a caricaturé chaque membre de l'équipe et c'est magnifique. J'ai notamment un magnifique pantalon saumon avec des vrais saumons.
Ouais.
Donc c'est très très beau.
Et il y a le drapeau franc-comtois.
Voilà, donc pour l'instant, on vous les a partagés sur Twitter et on va faire un petit montage, on va vous les partager sur les autres réseaux, ces dessins sont trop ouf. Donc merci beaucoup JD et JB.
Tu sais ce qu'il mérite
un pot de cancoyote.
Aussi.
Oui.
Mais qu'on l'applaudisse avec des claquements de doigts.
Ça fait léger, je pense. Hein. Non, en vrai, c'est trop, trop cool.
Ouais,
non,
c'est
trop chouette. Si vous avez des talents en dessin, faites-vous plaisir.
Dessinez-nous.
Mais non, mais
dressez-nous le portrait.
Mais c'est trop cool, ça me fait trop marrer. C'est trop chouette. Et après, donc là, c'est des dessins. Si vous avez des talents pour chanter, par exemple, ça me ferait kiffer qu'on ait un petit enregistrement. Mais si, ça sera trop
on bien. Va le regretter.
Donc, voilà. Profitez de cet été pour cette petite saison estivale.
Tu la vois venir, la Pim Pam Poum Company, là Tu okay. Les vois venir?
Bah, je fais un appel. Si vous avez des talents artistiques, que ce soit la peinture, le dessin ou le chant, envoyez-nous votre petite création, on la partagera sans aucun doute.
La sculpture sur glaise.
Ou de la voilà. Pâte à modeler.
La sculpture, si vous faites une sculpture en cocoyote, je peux vous jurer que. Voilà, on vous invite.
Ça marche pas non plus.
Mais non,
vous avez
c'est
des
très éphémère.
Sur la versatilité de la cocoyote qui sont très très fausses. Je
écoute,
pense.
Sculpture en cocoyote égale invitation. Voilà, c'est dit, c'est fait.
Je rappelle que la texture, c'est un pot de gel qu'on a laissé au soleil trop longtemps.
Mais hein. J'avoue, dessinez-nous en fait dans un doigt de cocoyote comme ça, enfin, avec très. Le doigt.
Ouais, voilà.
En cocoyote.
C'est comme du latte art avec la cocoyote.
Absolument.
Mais sur ce, on va pas faire un épisode spécial cocoyote.
C'est ça.
Non, on va plutôt faire un filage.
Ouais. Voilà. Mais avant ça, en news, on est quand même très content parce que on a dit depuis un ou deux épisodes qu'on est très très content parce que on reçoit de plus en plus de messages et c'est très cool. Mais là, en plus, ça continue parce qu'on grimpe gentiment dans les classements, ça fait très plaisir. On atteint les 200 sur iTunes, ça nous fait extrêmement plaisir.
Donc, c'est pas 200 écoutants, c'est 200.
Oui, de 200 messages, mais c'est plutôt cool.
Ouais.
Et vous pouvez nous envoyer encore plus les derniers messages. Beaucoup touchés, ils sont adorables. Et voilà, si vous avez un compte iTunes ou si vous avez un Mac au travail, voilà, vous pouvez nous donner 5 étoiles avec votre Mac du travail. Si votre grand-mère a un iPhone, profitez-en. Voilà, votre grand-mère aime, pardon, maman, vous le savez. Ça y est, c'est moi.
On devrait lancer un podcast qui s'appelle Pardon Mamie d'ailleurs.
Putain, c'est pas con ça. Okay.
Je récupère les fichiers, je les mets en deux fois plus lent.
C'est ça.
Et on change le
temps. Et on parle plus fort.
Bah, ou en deux fois plus rapide parce qu'elles ont pas trop le temps non plus, quoi.
Et donc le filage.
Le filage, il me semble qu'on va commencer par Juan.
Yes.
Voilà. Et tu, de quoi tu veux nous parler ?
On va faire un peu d'étymologie. On va parler de noms de pays et d'où ils viennent.
Oui.
Ok.
On va pas faire tous les pays du monde parce qu'on n'a pas la nuit, mais on va en faire quelques-uns.
Très bien.
Faisons. Cool, j'ai hâte.
Faisons comme ça. Après, ce sera...
Ichouchou !
Ichouchou !
C'est moi. Je vais vous parler de musique, de planète et de Gustav Holst.
Ah, cool. Ça faisait longtemps, un petit sujet musical. Ouais. Après, ce sera Camille.
Et oui, et nous, on va se poser une question simple. On va se demander pourquoi.
Ah, elle ne dit pas pourquoi en plus.
Eh ben non, non, non.
C'est ça le secret. Ouh. Du pourquoi.
Et oui.
Depuis quand même pas mal d'épisodes.
Le mystère du pourquoi.
Je pense que surprise pour les gens.
Jouer la surprise, voilà. Wink, wink.
Et personnellement, je vais vous parler, parce que personne ne me demande.
Non.
Je vais vous parler de l'Allemannstraten. Et ce qui va faire un épisode où je vais prononcer ce mot de manière très approximative.
Oui, là, je pense que ça se prononce pas comme ça, voilà. Mais en même temps, je ne sais pas comment
c'est
ça
quoi, c'est un mot allemand
non, pas tout à fait. C'est scandinave.
Tu veux pas l'appeler LST ?
Non, 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 plutôt pas. La série documentaire, non, non, ça va pas le faire. Non, non. Non, l'Allemannstraten ou Allemannstrat, pardon, j'en parlerai plus en détail, mais c'est ce qu'on appelle en français le droit d'accès à la nature. Une petite découverte que j'ai faite récemment et je trouvais ça assez fou pour en parler. Ouais, c'est un... ça fera partie des sujets les moins techniques dont je parlerai, mais ça me tenait à cœur. Donc,
bah,
ce sera pour finir cet épisode.
On a hâte.
Juste avant de partir en vacances, pour ceux qui partent en vacances, ils sont contents de...
Exactement. Voilà. Et du coup, on va commencer par ce cher Juan.
Allez.
Allez.
La tombe porte le nom de...
Quel nom compliqué ?
Quoi, on aurait couché dehors ?
C'était votre nom autrefois, n'est-ce pas ?
Et il a fait un jingle en plus.
Ah oui, oui.
Mais je comprends pas le Bob Marley là-dedans.
Je sais pas.
Ok, c'est très bien.
Un petit One Love, parce qu'on va parler de plein de pays. Donc okay. Je me suis dit, ouais, la paix, c'est bien.
Ah, c'est un petit sujet.
J'adore les bolas. Donc, on va parler d'étymologie de noms de pays. Alors, on va quand même rester assez vague, parce que le truc, c'est que l'étymologie, c'est pas une science exacte. On se base sur ce qu'on a trouvé historiquement pour essayer de déduire un petit peu d'où ça vient. C'est pas toujours. Souvent il y a plusieurs propositions, donc j'ai quand même choisi des pays où on est à peu près sûr. Comme ça, vous pourrez balancer le truc lors super. D'un repas de famille quelconque.
Si vous avez une famille.
C'est si ça. Vous avez une famille ou encore une famille.
C'est bonne ambiance,
ouais. Oui. Et on va commencer par un pays que vous connaissez peut-être, c'est la France.
Ah,
oui, ça me dit quelque chose.
Mais ça vient des Francs.
Ça vient des Francs. C'est oui. Francia, donc c'était Francia qui signifie la terre des Francs. Et pourquoi les Francs s'appelaient des Francs ?
Oh bah parce que moi je trouve qu'en fait ils étaient assez directs quand ils parlaient, enfin ils tournaient pas autour du pot, ils étaient plutôt francs.
Du pot de...
Non,
tu cherches, tu cherches.
Yes.
Évidemment. Non, ils étaient nommés ainsi, c'était le nom en fait de leur lance.
Les ah ouais
pour, d'accord. Pour tuer des trucs, qui s'appelaient des francons. F-R-A-N-K-O-N.
je sens une attaque par rapport à une région de France.
Non,
mais non. Non, mais non. Rien à voir.
Pas fait d'eye contact sur Camille, pas du tout.
Ils ont commencé par une région qui était la Franc-Comté.
La Franc-Comté. Non, ils avaient des lances qui s'appelaient des francons, et c'est pour ça qu'on les appelait les francs, sachant que franc aussi, c'est devenu plus ou moins synonyme de libre, mais c'était par rapport au fait que c'était l'un des seuls peuples qui n'était pas sous le joug romain à l'époque où les Romains avaient envahi à la France. Mais donc,
irréductible dans un petit village.
On va toujours faire un résumé par une petite phrase. Donc, la France, c'est la terre des mecs qui avaient des gros cure-dents.
Oh.
Ok. Soyez vigilants parce qu'il y aura un test à la fin.
Oui. Okay.
Franc, cure-dents,
Franc. Ou pas du tout, lance. Mais bon, au moins vous serez vigilants. Passons à l'Allemagne.
Ah.
Alors, d'après vous.
Ils allaient plutôt
alors déjà, vite. Ça s'appelle Deutschland, non ? Non, ça c'est.
Ouais, mais
c'est...
Tu, ouais, j'avoue, tu parles du nom du pays dans la langue d'origine ou dans notre langue à nous ?
Alors, généralement, on est sur plus ou moins le même nom.
Deutschland, Allemagne, il n'y a pas beaucoup de lettres similaires.
Hein. C'est les mêmes racines.
Généralement, c'est les mêmes racines en fait, parce que quand on appelle un pays, c'est une traduction de ce que ça voulait dire à la base, la plupart du temps. Donc alors, ça veut dire plus ou moins la même chose.
Je vais partir sur Germany. C'est merci. Plusieurs bactéries ? Non, je ne sais pas.
Bah, c'était les cousins des Français.
Est-ce que c'était des cousins germains ?
Bah oui, peut-être.
Allemand.
Ça vient d'une tribu germanique du sud, qui était la tribu Alamanni. C'était un peu all men, tous les hommes.
T'as l'air d'être convaincu par.
En fait, c'était une confédération de tribus. Qu'est-ce que tu fais avec ton pied, Elias ?
Pousse la table avec ton pied.
Ah, et alors ?
Bah, ça pousse la table.
D'accord. Autant pour moi. Donc, l'Allemagne, c'est l'endroit où il y avait tous les gens.
Mais c'est quoi tes sources ? C'est nompays.com
enfin, ouais.
Okay. On a fait un sujet à deux.
Ouais, d'accord.
Nompays, pas ouf et on n'est pas trop sur .com. L'Espagne.
Espagne. Est-ce que
ça vient du nom d'un peuple ?
Oui. Les
Espagnons.
Non, les chiens. Les Espagnols. Non, non plus.
Non, plutôt pas.
Non, 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 ça vient...
Hispanie, non, je sais pas.
Alors, c'est la faute des Phéniciens.
Toujours.
Okay. Vous voyez qui étaient les Phéniciens ?
Les Tunisiens.
Non, les Phéniciens.
Non, c'est du côté de l'Iran. De...
C'est le Liban, les Phéniciens, c'est, le Liban ouais, c'est ça, c'est au Proche-Orient.
Tunisie, Liban, c'est pareil, ils sont petits.
Oui,
c'est un petit pays.
Okay.
Russie, Chine.
Eh bien, figurez-vous que les Phéniciens, du coup, ils sont arrivés en Espagne. Ouais. Déjà, ils pensaient que c'était une île.
Ils étaient un peu cons, hein.
Et ouais. Et en arrivant, ils ont vu plein de petits animaux qui ressemblaient à des, ce qu'eux appelaient les Irax.
Les Xanax.
Les Irax, c'est des espèces de petits rongeurs africains, en fait. Mais en fait, c'était des lapins. Mais du coup, okay, bah,
moins classe. Attends, les rongeurs africains qui sont des lapins.
Donc attends.
Non, il y a des rongeurs qu'on appelle les Irax.
Ok, qui ressemblent à des lapins.
Voilà. Okay. Et en fait, eux, ils ont pris les lapins qu'ils ont vus en Espagne pour des Irax. Et du coup, ils se sont dit, c'est l'île des Irax, en fait.
Ok.
Et les Romains, qui sont arrivés donc un peu plus tard en Espagne, ont latinisé le nom Irax en Hispania. Bon, pourquoi ? J'ai pas là, encore une fois, le détail linguistique, parce que je ne suis pas linguiste. Mais Irax se transformait plus ou moins en Hispania.
C'est marrant, parce que Irax, pour moi, ça aurait plus donné Irak, tu vois. Mais
oui, on est tous d'accord.
Non, parce que ça s'écrit H-Y-R...
etc.
A-X-E. Bref, l'Espagne, c'est l'île où il y a plein de lapins.
Très bien. Ok, je t'avouerai que je fact-checkerai peut-être ça plus tard, mais...
Fais-toi plaisir. Hong Kong.
Non, pas de blague sur King Kong.
Non.
Bah non, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison d'être.
Oui,
cette blague.
Bah je sais pas.
Hong Kong, alors non, trop compliqué pour moi. Enfin, tu vois, étymologiquement, je ne suis pas du tout calé déjà de base. Alors, côté
alors en fait,
asiatique,
c'est assez premier degré finalement. En
Hong
fait,
veut
Hong
dire
Kong,
quoi.
C'est la transcription phonétique du cantonais Hong Kong, je m'excuse pour ma prononciation du cantonais, ce qui veut dire littéralement le port parfumé ou le port au parfum.
Le port l'animal.
Ah, non,
le
mais
port
non, comme non, un port les bateaux. Maritime.
Ah oui.
Okay. J'ai pensé comme toi au début, je me suis dit ça n'a aucun sens.
Bah si, un port parfumé, c'est plus de sens un halouf parfumé que un bateau parfumé.
Mais c'est une capitale maritime.
Voilà. Donc Hong Kong, c'est le port qui sent bon, tout simplement.
Ok.
Donc,
et ça sent vraiment bon.
Sent bon. Voilà. Bah, en fait, c'était par rapport au marché qui avait
les épices.
Donc il y avait plein de parfums différents. Habile. Donc Hong Kong, le port au parfum.
Oh, c'est très bien.
N'est-ce pas? L'Afghanistan.
Ah.
Alors, le stand.
Le stand, ça veut dire le pays, non?
Ouais, j'ai fait assez short sur les stands parce qu'il y en a beaucoup et en effet, stand, ça veut dire la terre ou le pays.
D'accord. Ah, on avait une bonne réponse. Tu nous l'as volé.
Bah non, vous avez pas la première partie.
Alors.
Attends,
bah le pays des Afghans.
Alors ça oui.
C'est pas
c'est quoi les Afghans?
C'est pas un arbre.
Pas du tout.
Non, c'est des arbres. C'est l'argan ça.
Afghans en fait.
Des Afghans de toilette.
Ça viendrait du mot asvaka. Alors faut aussi comprendre que je lis des mots, mais la prononciation a peut-être rien à voir dans la langue d'origine. Mais comme je parle pas 80 langues, c'est normal que ça y ressemble pas tout à fait. D'accord.
Tu devrais avoir.
Et donc afghan en traduction, ça veut plus ou moins dire cavalier.
Oui, putain.
Donc ce serait le pays
des cavaliers.
Des cavaliers, tout simplement, parce qu'ils sont connus pour leurs chevaux.
C'est pas faux. Je vous rappelle le jeu là, avec les chèvres qui viennent de là-bas. Ouais. Je ne me rappelle plus du nom, mais oui.
Le chèvre polo.
Exactement.
Ouais, exactement. Ouais. On vous renvoie à l'épisode.
Non, à la nuit originale.
Un jour, Inch'Allah, il sortira. Oui, c'était là.
C'était à la nuit originale.
Ma chronique,
je vous invite à demander à Thomas de ploter la nuit originale. Démerdez-vous. Alors, le Japon.
Ah, Nippon. Mm-hmm. Ni mauvais.
Eh ben, c'est pas le.
Non,
c'est
non.
Pas le,
carton jaune.
C'est direct. Pas le pays du soleil levant. Non, je confonds.
Eh ben oui, en fait, si, il y a toute une histoire pour expliquer.
Attends,
qu'en fait, c'est le pays du soleil levant.
Et le pont veut dire quelque chose, non?
Oui, probablement.
Ah non, mais en fait, non, je crois que t'allais l'expliquer.
Non, non, le Japon, ça vient du chinois. Désolé pour ma prononciation. Jitpun.
Le Japon vient du chinois?
Bah oui, parce qu'en fait, Marco Polo a italianisé le mot Jitpun en Jepun, qui est devenu Japan. Japon. Et ça veut dire la terre du soleil levant, puisque le Japon est à l'est de la Chine. Ouais. Et en fait, Marco Polo est arrivé
en Chine.
Voilà, et c'est là qu'il a découvert, du coup, que là-bas, il y avait une île qui s'appelait le Japon, donc, parce que c'est là-bas que le soleil se levait pour les Chinois.
Ok, donc le pays du soleil levant, c'est pas la Chine. Enfin, c'est la Chine pour nous et c'est le Japon pour les Chinois.
Non, c'est le Japon.
Ça n'a jamais été la Chine, le pays du
soleil levant. Donc, quelque part, Montreuil, c'est le pays du soleil levant de Paris.
C'est la banlieue parisienne, ouais.
C'est beau.
C'est la banlieue du soleil levant.
Vous ratez la tête de Juan.
Ok, l'Argentine.
Imperturbable.
L'Argentine. Argentina. Rien à voir avec l'argent ?
Bah si, probablement.
Bah il y avait des mines d'argent qu'on a exploitées en faisant du commerce triangulaire des MIF, non ?
Who the fuck knows ? Non, ouais. En fait, ça vient du latin...
Paul Taylor, c'est
Argentum. Ça vient du latin Argentum, donc jusque-là, ça va. Argentum. En fait, en Argentine, il y a un estuaire qui s'appelle le Rio de la Plata.
Oui, ouais. Le Rio de la Plata.
La rivière d'argent, donc. Parce que les conquistadors, ils pensaient qu'en remontant El Rio de la Plata, ils atteindraient la Sierra de la Plata, donc les montagnes d'argent. C'était une... un peu comme
Eldorado,
Cédor, machin, voilà, ouais. Une espèce d'Eldorado. Et du coup, la terre autour de cette rivière, autour de cette fameuse Sierra, s'appelait la Tierra Argentina, donc la terre d'argent. Mmh. On a raccourci avec les années, qui est devenu simplement Argentina. Donc Argentine, c'est terre où il y a potentiellement du bif.
Ok.
Cool.
La Bolivie.
Ah, Bolivie.
Il y a un indice dans le nom, quand même.
Livie.
Bol.
Ouais, tu mélanges.
Ils les sont deux. Forts en céramique.
Comment il s'appelait le mec L'Olivier. Président de la Bolivie
Pablo, non.
Non.
Pedro. Oh,
putain. On va peut-être éviter de faire tous les clichés Sistra.
Mais non, j'allais dire Escobar.
Ça commence par Bolly.
Bollywood. Tu cherches toi aussi.
Simon Bolivar.
Ah, ah
mais bien sûr. Claro que si.
Donc voilà, ils ont nommé le pays en honneur de Simon Bolivar, qui était le premier président de la Bolivie après son indépendance.
Et il a nommé le pays d'après lui.
Je ne sais pas si c'est lui qui a donné le nom. En tout cas, le nom de Simon, ça lui vient du village Simé, qui était El Puebla de Bolivar. Et Bolivar, ça veut plus ou moins dire le moulin sur la rivière.
El Puebla.
Plutôt poétique.
La Puebla, pardon. Ah.
Alors que nous, c'est juste une lance, quoi. Donc,
ouais, donc Bolivie, c'est le pays de Simon Moulin à eau Bolivar, en gros.
Non, mais moi, je préfère leur origine. Nous, c'est juste une arme un peu toute moisie. Oui. Pas ouf, hein.
Le Cameroun. Celui-là, je tiens à dire que, franchement,
c'est le pays des gens. C'est le pays des gens honnêtes. C'est ça, non ?
Non.
Non, j'ai confondu alors.
Tu t'es fait avoir, toi.
Ah non, j'ai confondu avec un autre truc.
C'est celui qui m'a mis le seum. J'ai fait sérieux, les gars.
Est-ce que ça a à voir avec.
Le premier président s'appelait Cameron ?
Diaz, Cameron Diaz, exactement. Juste après Maria Touché.
Je sais pas. Je sais pas.
Non, en fait, Cameroun, ça vient du portugais.
Ah. Ok, ouais. Jusque-là.
En fait, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Wouri. Mais les Portugais, ils ont trouvé plein de crevettes en arrivant. Alors, ils l'ont appelé
Camarón.
Rio de Camaros.
Ah, et qui veut dire crevette.
Ou Camarouche.
Ça veut dire crevette, Camarón.
Tu te rappelles pas mon sujet sur la où je parlais de Camarón.
On a fait trop de sujets.
De flamenco avec ouais. Camarón. Et Camarón, je vous ai dit.
En espagnol, et donc Camaros.
Totalement oublié.
Camarón, ça veut dire crevette. Okay. En espagnol. Et donc, en portugais,
Camarón.
Camarón.
Et donc, c'est donc Camarón, c'est ensuite devenu Cameroun, donc Cameroun, pays où il y a des crevettes. Merci les Portugais.
J'avoue, ça.
Putain.
Je sais même pas.
Je préfère les lances quand même.
En plus. Ouais.
Je préfère les moulins à eau.
De surcroît. L'Irlande.
Ah.
Le pays de la colère.
Alors attends, c'est un truc celtique.
C'est un truc celtique.
Aire veut dire vent.
Alors.
Le
pas
vent.
Exactement. En effet, ça vient de ce qui s'écrit aire. En fait, ça se prononce aire.
Ouais. Qui veut aussi alors, dire
le camerounais, le japonais, ça marche pas. Alors pour l'irlandais,
oui,
du monde.
Oui, c'est vrai qu'en libanais, ça veut dire autre chose. Oui, tout à fait.
Ere, c'est celtique, donc, et ça veut dire un lieu fertile.
Ok.
Ou, plus directement, le lieu donc d'Ere, c'était une déesse celte de la fertilité. Ere, également.
Et ben en libanais, ça veut dire aussi voilà, que c'est un lieu fertile en libanais. Hein, oui.
C'est-à-dire
ça veut dire phallus.
Ah bah voilà.
Ça veut dire bite.
Attends, mais le libanais, c'est de l'arabe, non ?
Le dialecte.
Ah, c'est un dialecte, ok. Mm-hmm.
Bah du coup, l'Irlande, c'est la terre où ça pousse bien. Ou la terre des bites, apparemment, en libanais. Vous le saurez.
Voilà, on leur partagera
vous
ça.
Vous l'aurez appris.
Ici.
N'en parlez pas autour de vous. Le Guatemala.
Tu te rends compte qu'on fait du pifomètre
bah ouais, mais des fois vous avez un le truc alors je tente.
Rien à voir avec le guacamole, non. Je suppose.
Ça vient en fait d'une langue aztèque, le nahuatl. Très chiant à prononcer l'aztèque, sachez-le.
Oui.
Et le mot c'est. En gros, c'est Guatemala en aztèque. Je vais pas essayer de prononcer.
Si, allez,
mais ça veut dire quoi Guatemala
non,
en aztèque ?
Il y a des U partout.
Bah vas-y, essaye au moins.
Ça veut dire lieu de très nombreux arbres.
Ah non, moi je vote pour côté ça.
Moi aussi,
oui, moi aussi je vote.
C'est Guatemala, un truc comme ça.
Mais non, mais c'était tout nul ça.
Eh ben, soulève tes morts. Donc ça veut dire lieu de très nombreux arbres, et les locaux faisaient référence en fait à un lieu particulier. Quand les colons sont arrivés, ils ont fait « c'est quoi ça ?» Ils ont fait,
une forêt.
C'est le lieu de nombreux arbres. Et en fait, c'était un lieu particulier auquel ils avaient donné ce nom parce qu'il y avait un arbre pourri au milieu avec plein d'arbres autour. Sauf que les colons se sont dit « bah ça doit être le nom du pays du coup.
Ouais, » c'est comme si les Américains avaient renommé la France la Normandie quoi.
Exactement.
Ou la plage.
C'est plus ou moins bien expliqué. Mais du coup, c'est resté, et donc le Guatemala, c'est la terre où il y a plein d'arbres finalement.
Ok.
Très bien.
Le Kosovo. Alors, le Kosovo, c'est un mot serbe.
Est-ce que c'est vraiment un pays?
Non, mais moi, je rentre pas dans ces discussions. Bah
oui. Non, mais honnêtement, ouais. Je sais pas
si c'est légalement, c'est un pays. Ouais.
Ah oui, oui.
Ok.
Et c'est dérivé de Kosovo Polje, qui est la plaine centrale du Kosovo et qui littéralement veut dire le pré du merle. Donc, Kosovo, c'est le pré où il y a des merles.
C'est quoi un merle?
Un merle, c'est un oiseau noir avec un bec orange.
Un peu comme un corbeau. Saloperie,
fait un bruit très désagréable.
Voilà. Okay. Un peu comme un corbeau.
Ok. Mais ouais, c'est ça. Mais avec un bec orange. Madagascar.
Quand tu vas parler de la Turquie ou pas?
Non.
Putain.
Mais si t'as quelque chose à nous dire sur la Turquie, je t'en prie.
Bah, ça vient de Atatürk.
Qui est?
Le premier président. Enfin, je sais pas si c'est un président.
Ok, donc comme Bolivar.
Vient,
comme
oui. Bolivar.
Ah ouais, bah en fait j'avais déjà Bolivar, donc tout ce qui était nom de président, j'ai squeezé parce que c'est la moitié des pays d'Afrique aussi. Donc,
donc Madagascar.
Madagascar. Donc, ça vient du Malagasy.
Madagasy.
Ça vient de Madagascara, qui veut à peu près dire la fin de la Terre. Parce que c'était loin de l'Asie du Sud-Est, et en fait une partie de la population venait de, d'Asie du Sud-Est.
D'accord.
Et donc Madagascar, ça veut dire c'est vachement loin, en gros.
Ok.
C'est un peu le Finistère, quoi.
C'est un peu Fort Boyard. Boyard, pardon. Je ne sais toujours pas le prononcer, 30 ans après. Le Venezuela.
Venezuela.
En réfléchissant deux minutes, il n'est pas si difficile.
Ben, qui veut dire viens. Ez, qui veut dire...
Ils ont fait une...
Avec un Z.
Et là, qui veut dire là.
Voilà.
Et viens là.
Là, là. Là.
Ouais, ça vient là. Ils ont fait une campagne là, un peu de com, marketing.
Non, 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 ça vient de l'italien Venezuela, qui veut dire petite Venise.
Venezuela.
Venezuela, exactement. Non, petite ça veut dire Venise. Petite Venise, en fait, en arrivant sur le lac Maracaibo, les explorateurs, ils sont tombés sur des maisons sur pilotis et ils se sont dit hey « Eh !»
Ça ressemblerait pas à quelque chose qu'on connaît déjà.
Ce serait pas un petit peu la petite Venise de là ?
D'accord.
Comme on en parlait tout à l'heure,
c'est
il y a
ça,
une
en
Venise
fait, il y a 825 petites Venises dans le monde, quoi, exactement. Sans déconner.
Et du coup, Venezuela, ça veut dire Venise en plus petit, alors que c'est beaucoup plus grand, quand même. C'est...
Oui, un peu. Bah,
que Venise. Ouais.
Mais c'est Venezuela, la petite Venise. Et pour finir...
Ah,
il est pour toi, Camille.
La Bretagne.
Le Timor oriental.
Oh, merci. Merci.
Alors,
eh ben voilà.
Mais j'en ai aucune putain d'idée,
eh ben,
le Timor
je vais
oriental.
Te le dire.
Ben, je trépine d'impatience.
Alors, ça vient du mot malais Timur,
ouais.
Qui signifie l'Est.
Et oriental,
en
l'Est.
En Indonésie, le nom c'est Timor Timur, donc Est oriental. Les Indonésiens le raccourcissent souvent à Tim Tim, du coup Timor oriental, en gros, c'est vachement à l'Est quand même.
Comme la Franche-Comté.
Exactement.
Très classe,
jingle. Trop bien.
Je fais quand même un petit blind test de 2-3 pour voir si vous avez suivi.
Allez.
Espagne.
Easy. Espagne.
Le pays,
le
des,
pays
lapins.
Des lapins.
Oui. Ah. C'est trop fort. L'Argentine.
Le pays, enfin la terre d'argent.
Très bien. L'Irlande.
La terre fertile.
Bien. Ça pose bien.
Oui, ça marche aussi, du coup, on est obligé d'accepter. Le Guatemala.
Oh putain.
Ah. Oh putain, c'était quoi le Guatemala? Ah si, la terre des arbres.
Oui,
oh,
très bien.
Et bim.
Et on va s'en prendre un petit dernier. Le Timor oriental.
Est.
Est.
C'est vachement loin quand même.
Tim Tim.
Ouais.
En Indonésie, donc c'est vachement à l'est.
Eh ben c'était trop intéressant.
Tant mieux.
Bah, c'est cool.
Bah, merci beaucoup.
J'espère que vous n'avez pas déjà tout oublié.
Bah, tu viens de vérifier que non.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
C'est pas à toi que je parle.
On se renverra des petits WhatsApp demain pour vérifier. Mais oui, et envoyez-nous des WhatsApp, voilà.
Non, bah franchement.
Ça va être gênant.
Ensuite,
allez, bah, c'est à mon tour.
Allez.
Et ça va être un peu dans le même délire que les 4 saisons de Vivaldi.
Trop délire.
Allez, c'est parti.
Puis-je vous présenter un ami? C'est le personnage le plus doué de sa génération. Je vous présente Gustav.
C'est pour le cinéma ou la télé?
Ni l'un ni l'autre.
Ah, c'est cruel, j'attendais la fin.
Mais c'était bien calé quand même.
Oui, c'était vachement bien. Très beau générique.
Merci.
Trop beau jingle.
Merci. Donc, je vais vous parler de ce cher Gustav Holst, qui est né le 21 septembre 1874. Et c'est important, parce que c'était il y a longtemps.
1800.
Oui, 1874.
Très important. Tu veux dire qu'on ne connaissait pas encore grand-chose à propos d'un certain sujet?
Il est né donc à Cheltenham, c'est une petite bourgade au sud de Birmingham, et j'ai appris qu'ils ont un quartier qui s'appelle Montpellier, mais qui s'écrit pareil.
Oui, le petit Montpellier.
Montpellier. Bref, donc son vrai nom, c'est Gustav Theodor von Holst, et il vient d'une famille de musiciens et de professeurs de musique. Son père était pianiste et il jouait de l'orgue à l'église. En grandissant, il était un peu délaissé par sa daronne, parce qu'elle était à fond dans la théosophie. C'est une branche d'hindouisme et de bouddhisme, enfin du bouddhisme. Donc elle était à fond sur la réincarnation et le karma. Et du coup, bah, elle s'en foutait un peu de son gamin.
Ah, tu me parleras quand tu te seras réincarné, ok.
Et en plus de ça, Miskin, il avait la santé super fragile. Il était asthmatique de ouf. Et il avait une vie. Quand il était gamin, c'était pas le top. Quoi. Ah,
quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression de France Culture. Il était asthmatique de ouf. Sa mère.
Et en plus de ça, son père s'en foutait royalement de ses crises d'asthme parce qu'il l'obligeait
assister. Fumer du tabac.
Non, il l'obligeait à assister à ses cours malgré ses crises. Et en plus,
cool pour les autres.
Et en plus de ça, j'avoue. Et en plus de tout ça, il disait que si son fils jouait un instrument en cuivre, donc tout ce qui est trombone, trompette, tuba ou cor, ça va peut-être l'aider à réduire son asthme.
Ouais, pas trop. Pas convaincu.
Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'envoie faire des cours de trombone. Et à l'âge de 12 ans, il se met à la composition de musique. C'est une autre époque. Aujourd'hui, les gamins de 12 ans, ils se mettent à Fortnite, mais bon.
Ouais. Et alors Jean Réac.
Attends, mais il y en a un récemment qui a touché 900 000 dollars, donc
il avait 16 ans, pas 12, d'accord.
Mais tu peux peut-être aussi toucher 900 000 dollars en jouant du trombone.
Aussi. Possible, mais... possible.
Ouais. Bon, alors tu disais.
Et donc son compositeur préféré s'appelle Edvard Grieg. Je suis sûr que vous connaissez.
Absolument.
Ça donne ça. Bien sûr.
Ah, la pub pour les Herta.
ce genre de mec.
Donc ça c'est le cher Pierre Edvard Grieg qui, et la chanson c'est Pierre Grieg
in the Hall of the Mountain King.
Exactement. Il a lu aussi Gustave. Il a lu le traité d'instrumentation et d'orchestration moderne. J'ai pris le temps parce que c'était très compliqué.
On dirait un cours de diction quoi.
Écrit par Hector Berlioz. Un grand compositeur français, et avec les leçons de piano de son père, il devient très très bon en musique classique. Mais, il a la santé fragile, comme je l'avais dit. Il a chopé une neuropathie inflammatoire au bras.
Mais il a tout eu, Michel.
Oui. Alors
c'est une lésion inflammatoire d'un nerf, et donc sa carrière de pianiste, capote.
Et sa mère faisait de l'homéopathie, pourtant.
On a dit les instruments avant, c'est mort, le piano, c'est mort.
Donc,
du triangle avec les pieds, du coup.
À 21 ans, il décroche une bourse au Royal College of Music à Londres en 1895. Et à cette période, il est ultra influencé par la musique de Robert Wagner.
C'était pas le seul.
Joli.
C'est toujours chaleureux, moi je trouve un peu de Wagner, quoi.
On rappelle que Wagner a eu un passé tumultueux.
Ah ouais?
Disons qu'il a eu des fans contestables.
Là, je vous fais passer des trucs qui sont pas de lui, juste pour que vous essayiez de vous rappeler, parce que après, vous allez voir qu'il s'inspire de ça vraiment.
Donc ça, c'était Chevauchée des Valkyries.
Exactement, la cavalerie des Valkyries. Bref, donc quand il était étudiant, pour gagner un peu d'oseille, il se met à jouer du trombone dans des orchestres. Voilà, c'est un sacré job étudiant.
Billy Elliot.
À la fin de ses études, il accepte le poste de direction de la chorale socialiste d'Hammersmith, un petit quartier à l'ouest de Londres, juste à côté du stade de Stamford Bridge, pour ceux qui s'y connaissent en foot anglais, donc personne autour de cette table.
Plutôt pas. Non.
Mais voilà, on a des auditeurs qui s'en foutent, j'y crois.
Qui s'en foutent.
Si vous en foutez, n'hésitez pas à le dire.
Ouais, bah en parlant de s'en foutre, il rencontre son épouse Isobel Harrison en 1903.
Par rapport au foutre.
Ah non, allez, continue Isabelle.
Et ils partent tous les deux à Berlin où ils rencontrent plein de musiciens de mélomanes. Et quand ils rentrent en Angleterre, ils se consacrent à 100% à la composition et ils trouvent un poste de directeur de musique à la James Allen's Girls School. Là-bas, il composera une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle Saint Paul's Suite. Ah, tu sens que Holst était anglais.
Je sais pas. Oui, il y a une petite inspiration irlandaise.
Et surtout, il adore les instruments avant. Et on va le remarquer.
pas là, déjà.
Bah, si.
Non,
c'est pas
ça,
du tout. Oui, oui non, ah, je suis con.
Tu m'as mis un doute, hein, mais.
Ça sera après.
C'est des cordes, ouais.
Mais en tout cas, oui, il adore les instruments.
Oh, la percu, c'est
ça. Oh, le vent que je me suis pris.
Le calendrier.
Mais on va le remarquer tout à l'heure.
Sans aucun doute.
On arrive en 1907. Encore une fois, on s'en fout, mais il a une fille qui s'appelle Imogène et je trouve ça super drôle.
Ah, oui, c'est original comme nom.
Bah oui, c'est,
mais déjà,
vraiment...
sa nana, elle n'a pas un prénom chelou ?
Si, Isobel.
Oui, d'accord, ok. Donc Isobel et Gustave ont eu Imogène.
Exactement. Ouais, donc ça n'a vraiment aucune importance dans l'histoire, mais voilà,
c'est
je trouve
drôle.
Ça drôle.
Non, Imogène, c'est bien.
Donc, il s'installe au bord de la Tamise tranquillou et autant.
Aussi, on s'en fout.
Mais non, parce que là, tout se passe bien, tu vois.
Laissez-le tranquille, le pauvre.
Tout se passe bien dans sa vie familiale, machin, mais par contre,
il y a toujours
ses compos. zéro succès. Nul à chier. Cool. Du coup, il déprime tout ça, tout ça. Mais et là, il a un ami à lui qui est compositeur. Il l'invite à passer des vacances en Espagne, histoire de décompresser un chouïa.
Voir des lapins.
Oui. Et là-bas, il rencontre deux frères, Arnold et Clifford Bax. Arnold est un compositeur et les deux sont passionnés d'astronomie.
Ben tiens.
Ah.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport?
Exactement. Il lui parle donc des planètes, mais surtout, il donne à chacune d'entre elles une personnification. Donc, chaque planète a un caractère humain. Et du coup, Holst composera pour chaque planète un poème symphonique et va faire dégager une situation humaine différente pour chaque morceau.
Il s'est inspiré de la mythologie romaine ou pas?
Oui.
Ouais,
okay. Moi, je suis venu pour écouter Mars. Hein.
Bah, ça va être le premier. Ah. Donc, il écrit une suite en 7 mouvements entre 1914 et 1917 et c'est sorti en 1918.
Okay.
Et je vais probablement avoir le temps d'exposer que les 3 premiers, peut-être 4, si vous êtes sage.
En plus, ils sont très longs, les morceaux.
Oui, mais je ne vais pas mettre tout.
Non, je doute, mais c'est juste pour prévenir les gens qui voudraient écouter.
Ça, oui, c'est quoi, mais par contre, c'est magnifique. C'est tous, vrai. Ils ont un caractère, enfin, ils sont tous super cool.
Une petite question, c'est quoi les 7 planètes?
Bah, du devine.
Système solaire.
Oh putain,
Mars, avril.
Mars, Vénus.
Jupiter, Mercure, Mars,
Pluton.
Vénus, Pluton.
Pluton,
Pluton n'en est plus une.
Ah non, c'est plus, oui, et à l'époque, elle n'existait pas encore. Enfin, il ne l'avait pas découverte.
Okay. Ah la vache, donc en fait, elle, c'est une planète éphémère, quoi.
Oui. Okay. Elle était de passage.
Bah, la Terre.
La Terre.
Ah.
Saturne.
Saturne.
Après, je ne sais pas ce que tu as fait, mais on va y passer. Donc,
Terre, Mars. Ouais.
Il y avait juste un intérêt d'entendre la Terre parce que je me rappelle avoir écouté
parce qu'elle elle n'y est pas.
Souvenir de... Ah.
Tout simplement. c'est les 7 sans compter la Terre.
Très bien.
Donc les 6.
Non, donc 7 sur 8.
D'accord, ouais, ok.
Donc, il commence par la planète Mars en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, pour vous, Mars, ça évoque quoi?
Le dieu de la guerre.
Exactement.
Les barres chocolatées.
Le morceau s'appelle Mars, the Bringer of War. Donc, Holst avait comme but de décrire la guerre, avec un rythme brutal et en 5 temps, avec un tempo assez rapide, bien appuyé et un peu martelé. On l'entend bien. Puis arrivent des trompettes. Avec comme thème de musique, juste 3 accords, mais avec la gamme qui correspond. C'est ce qu'on appelle une triade. Ces 3 accords vont revenir tout le temps. Après, il incorpore un tuba et un cor accompagné de trompettes. Là, tout ce qu'on peut ressentir, c'est juste de l'intensité. Il n'y a aucun passage héroïque ou de gloire. Et plus on avance, plus ça augmente d'intensité. Et j'ai lu un article qui décrivait cette chanson comme inhumaine. Et je trouve ça que ça colle parfaitement parce que même la mort, elle n'est pas ressentie. Parce que pour Mars, donc le dieu de la guerre, il n'a aucune sensibilité ni pour la vie ni pour la mort. Pas en couille. Il faut savoir que pour ce morceau, Holst a inspiré énormément d'autres compositeurs.
J'allais le dire.
Ça fait très Star Wars. Ça fait Star Wars de ouf.
Exactement. Donc je vais vous faire écouter un petit morceau.
Si tu peux mal, donc, tous les plans en fait, de films où tu as un astéroïde qui arrive sur Terre,
c'est Holst.
Toujours inspiré de Holst, à chaque fois.
Donc je vais vous passer l'original. Comme t'as dit Ilias, on dirait Star Wars. Et bah banco. Ça c'est Star Wars.
On dirait exactement le même morceau.
Bah c'est exactement le même morceau. Donc je vais juste isoler la partie, ça c'est l'original. Et John Williams. Je me suis pas trompé sur les samples.
Depuis tout à l'heure, il passe le même truc. Attends, c'est vraiment similaire.
Non, non, c'est vraiment. Il a copié. Enfin, c'est du copier-coller. Mais il y avait.
Il a fait ça au début du XXe siècle.
Ouais, 1917.
Et effectivement, enfin, ça a dû être énormément repris parce qu'en l'entendant la première fois, je me suis dit, ça fait vraiment Space Opera.
Mais oui, mais tu vas voir, il n'y a pas que Star Wars. Donc, il y a une version. Il y a aussi Gladiator. Écrit par le pote de Juan. Et d'ailleurs, bah, Hans Zimmer s'est fait attaquer en justice pour plagiat par la Fondation Holtz pour ce morceau-là.
Mec, ça fait depuis le début du XXe siècle qu'ils sont chauds. Oui, oui. C'est à venir, un jour on est chaud là.
Mais du coup, voilà, il y a encore un autre passage qui fait penser à Star Wars, c'est celui-là. Et Star Wars, donc en 1977. CTRL-C, CTRL-V.
Tu sens quand même le mec qui avait le seum de ne pas pouvoir jouer des cuivres et du coup il met bien en
j'avoue.
Souffle, con, vas-y.
Donc ça c'est tout. Pour Mars, on passe à Vénus. Donc pour vous, Vénus c'est...
L'amour, la féminité.
Exactement, la déesse de l'amour, de la séduction et de la beauté féminine. C'est la pacificatrice qui vient après le dieu de la guerre. Donc le morceau s'appelle Venus, the bringer of peace. Donc Vénus, celle qui apporte la paix. Le morceau commence par une petite intro avec un corps. Clairement pas. Et puis des flûtes.
Oh bah Star Wars.
Et on a un contraste de ouf avec la rage qu'il y avait dans le premier morceau.
Plutôt ouais.
Ouais. Le corps commence par des notes ascendantes. Et à l'opposé, les flûtes vont du plus aigu au plus grave. Et donc là, il joue avec 4 notes, c'est un rythme assez lent. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Mars, il y a très peu de musiciens qui interviennent pour Vénus. Donc Holst a dit « L'intégralité de cette musique est imprégnée par un monde où rien ne peut l'agiter. » Je trouve ça beau. Il incorpore de la harpe, on peut l'entendre dans le background. Et symboliquement, toutes les notes qu'il utilise, qui sont utilisées par les instruments, ils sont dans la gamme moyenne ou haute de l'instrument. Tout ça pour caractériser la beauté de la nature de Vénus.
C'est beau, c'est apaisant.
Ouais.
Il n'y a aucune vibration. C'est
non.
Que du...
La musique est vraiment belle. Les accords sont simples, ronds, pas interrompus. Et on a pas de mal à imaginer cette planète tranquillement en train de tourner autour de lui.
C'est quand même fou que Zimmer, il ait pris un procès et pas John Williams.
Ouais.
ça me fait penser à Bambi. Voilà.
Oui, là, j'imagine beaucoup l'instrumentalisation des vieux Disney.
J'imaginais la scène de Bambi quand il neige et tout. Voilà.
Et puis, un de mes passages préférés de Vénus, c'est un petit solo de violon.
Cet instrument avant bien connu.
Je t'emmerde. Et voilà, donc il y a le violon qui fait un petit solo et juste après... voilà, ça reste très beau, très paisible, tout ça. Et juste après, c'est repris par tous les autres instruments. Du coup, ça ressemble beaucoup à Saint Paul, la musique que je vous ai.
Sean Paul.
Mais non, Saint Paul. Donc voilà, ça c'était pour Vénus.
Moi j'aime beaucoup, mais elle est un peu rasoir.
Oui, Vénus. Mais après Mars, il faut. Ah.
Mon Dieu.
Mais après Vénus,
c'est
après
pas rose Mars, tous les jours.
Après Mars,
rose,
faut...
Vénus,
après Mars, il faut bien décompresser un peu. Donc on passe au troisième mouvement qui s'appelle Mercure. Donc ce morceau s'appelle Mercury,
le dieu du commerce.
Ça arrive, The Winged Messenger.
Ah, un peu des deux, vent, message. Okay.
Donc le messager ailé. Donc c'est le dieu du commerce, comme tu as dit Camille, mais aussi le dieu des voyages et le messager des autres dieux.
C'est celui qui a les petites ailes sur ses chaussures.
Exactement. Et le côté ailé, là, on l'entend bien par le tempo.
Tel un colibri.
Donc c'est rapide, fluide, et puis des notes brèves et assez discrètes. On entend aussi beaucoup d'instruments avant, flûte, le hautbois,
alto,
et encore un corps. Donc ce côté rapide vient d'où à votre avis, à part Mercure qui va vite avec ses ailes? Réfléchissez.
La rotation de la planète.
La planète tourne vite, ouais.
Parce que Mercure est la planète qui tourne le plus rapide autour du Soleil.
On l'avait.
Voilà. Il est pas bête, Holst. C'est le morceau le plus rapide, mais aussi le plus court. Pourquoi?
Parce que Mercure, il fatigue en fait quand il voyage au bout d'un moment. Il fait des pauses.
Parce qu'il voyageait vite.
Non, parce que Mercure est la plus petite planète du système solaire.
Coïncidence, je ne crois pas.
C'est bien foutu quand même.
Ouais. Et le dieu Mercure, comme tu as dit Camille, il est connu pour ses chaussures à ailettes. Donc là, on imagine bien en train de voler avec ses babouches.
Non, c'est pas les babouches.
J'aurais dit une édition limitée des Jordans.
Et pour le coup, avec il y a certaines phases, alors plus maintenant, mais au début du morceau, ça me fait penser au travail de Alan Silvestri, qui est notre compositeur qui a fait Retour vers le futur.
D'accord. J'avoue, maintenant que tu le dis. On va finir avec, avec Mercure, là, donc c'est fini pour Mercure. Allez, vous avez été sage. On va passer avec Jupiter.
Uranus, pardon.
Non.
Maintenant, on va faire Uranus.
Non. Donc, le quatrième chapitre, enfin, le quatrième mouvement, c'est Jupiter. Donc, Holst, il a sauté la Terre, parce qu'on la connaît. Et comme j'ai dit, Pluton, elle n'était pas encore connue à l'époque. Donc, on enchaîne avec Jupiter, the bringer of jollity. C'est lui qui apporte la gaieté. Avec un rythme exubérant et large. On peut entendre plusieurs thèmes dans ce morceau. Et le premier qu'on entend, il est super joyeux. La musique pleine de vie, de joie, de danse. Et Holst fait un petit clin d'œil à un compositeur russe qui s'appelle Rimsky-Korsakov, qui a composé Capriccio Espagnol. Et on ressent aussi le petit clin d'œil qu'il a fait parce qu'il a écrit ce truc en Espagne. Voilà. Okay. Et voilà, donc je vous invite à l'écouter parce que je l'ai pas enregistré. Mais je l'ai écouté et c'est pas mal. Okay. C'est pas mal.
Le truc du compositeur russe ?
Oui, okay. Capriccio Espagnol.
Non,
il y a,
on verra.
Encore une fois, beaucoup d'instruments avant.
Les violons.
Donc, les cuivres, le trombone, trompette, tuba et cor. Mais aussi le tambourin, le xylophone, qui ne sont pas des instruments avant, okay. Je sais. Okay. Donc, le tambourin, le xylophone et le triangle qui rendent la musique plus aérienne.
Excusez-moi, vous êtes John Williams, en fait.
et là, ça fait la musique de Tom et Jerry. Voilà. Chacun son imaginaire.
Non, oui, ta rêve est très précise, je ne l'ai pas du coup.
Mais... Okay. Pour moi, c'est quand Tom et Jerry se courent après.
Dans cette chanson-là.
Okay. Tom, qu'est-ce que tu fais encore ?
Il parle pas.
Il parle pas.
Non, mais c'est la dame, la maîtresse de Tom qui lui gueule genre Tom, qu'est-ce que tu fais encore ?
Très bien.
Elle a fumé des gauloises. Hein.
Donc, dans cette chanson-là, il y a 3 thèmes dans une seule chanson. C'est quand même énorme. Mm-hmm. Mais ce n'est pas fait par hasard. Il a volontairement fait ça. Pourquoi ?
Les anneaux.
Les anneaux.
Non.
Non,
non, je crois pas qu'il y ait d'anneaux Jupiter, c'est Saturne.
C'est Saturne qui a des anneaux. Ouais.
Non, c'est juste parce que c'est la plus grosse planète du système solaire.
Ok.
Voilà.
Et donc ça valait bien 3.
Exactement. Okay. Donc, pour.
C'est-à-dire qu'on est vraiment un podcast très précis, on vient de parler des anneaux de Jupiter.
Voilà. Et je crois que c'est Jupiter qui a 3 lunes.
Ah, bah voilà.
Ah, bah voilà. Donc,
c'est Wadze qui va être content qu'on soit aussi calé en.
Bonjour Wadze.
Donc, je vais revenir vite fait sur le premier thème. Je vais vous le faire passer et vous allez me dire à quoi ça va vous faire penser, à part Tom and Jerry.
Mary Poppins ?
C'est assez subtil. Hein. Celui-là, il va être compliqué à voir.
On parle de la mélodie ou de la structure ?
Les notes.
Est-ce que tu peux nous donner un indice ? Indiana Jones.
John Williams, bah encore.
Ah oui, effectivement, putain. Bon, on s'en fout, John Williams ne nous écoute pas, mais.
Donc voilà.
Tu peux nous remettre la précédente ? Écoute, c'est passé au-dessus de moi, mais j'ai pas le.
C'est très subtil, comme j'ai dit. C'est surtout ça, le passage. Juste le début. Avec le tout de loulou.
Bon, après, si c'est juste pour une suite de notes.
Ça ouais, non, oui. Parce que l'autre était quand même beaucoup plus sur le triangle.
Mais il y en a
une. Le sustain des notes, et là, on est plus sur du gros tambour. Ouais. Machin, du coup,
mais
moi,
là, celle qui vient, elle est vraiment plus obvious.
Plus évidente. Oui, pour ceux qui parlent espagnol.
Oh, ça va.
Vous me dites à quoi ça va vous faire penser.
Les Seigneurs des Anneaux.
Hans Zimmer.
Exactement.
C'est ça, non ?
Pirates of the Caribbean.
Donc, tu as dit Les Seigneurs des Anneaux. Mmh. On va l'écouter.
Là, c'est Howard Shore, par contre, Les Seigneurs des Anneaux.
Ah non, c'est Titanic, non ?
Non.
Non,
ça, c'est Les Seigneurs des Anneaux.
C'est Howard Shore, c'est pas Hans Zimmer.
Mais par contre, moi, quand j'ai écouté ça avant de... J'ai quand même tout écouté avant de commencer à faire mes recherches. Et je suis fier de moi parce que j'ai trouvé ça.
Ouais.
Braveheart.
Ah oui.
J'étais fier de moi, j'ai fait chier tout le bureau.
Chacun ses problèmes.
Pour le coup, les trois premières notes du morceau initial, ouais, c'est aussi les premières notes du thème de Pirates of the Caribbean.
Ah oui,
Pirates des Caraïbes, pour ceux qui ne parlent pas italien.
L'original de Holst.
Ouais.
Je sais pas, j'ai pas vu.
Juste la première montée, mais bon. Non, non, j'ai pas le sample, mais peut-être que certains l'auront. Ouais.
Pour une montée chromatique, ça va. Il y a.
Oh alors.
Oh ouais, des mots à trois syllabes.
Michel, je place des mots.
Ah ouais.
Du coup, là, je lance un petit appel aux auditeurs. Si ça vous a plu, il reste encore.
Donne argent.
Oui. Il reste encore trois autres planètes.
Envoyez des photos, voilà. Des photos, des dessins, des.
Vous aurez les trois autres planètes. Ne les aurez pas.
Nous, on est payé comme ça
on
à l'amour.
On fait des DLC maintenant.
On est payé comme ça à l'amour, au message, au dessin, aux 5 étoiles. Oh, c'était la pire conclusion de la terre. Genre, ton sujet était trop bien, je viens de le pourrir, j'ai honte.
Mais je suis ravi que tu m'aies fait réécouter
trop cool,
ce compositeur.
Ouais, mais en tout cas, honnêtement, si ça vous a plu, moi je me suis éclaté à le faire. Faites-moi signe et je ferai les autres planètes, Inch'Allah, NC4.
Eh ben écoute, moi-même, je donnerai 5 étoiles parce que je trouve que c'est vachement bien. Non, mais en vrai, c'est vachement bien et je pense que, blague à part, je vais écouter ça au taf demain.
Mais franchement, chaque planète est complètement différente. Enfin, c'est logique.
J'écouterai pas celle que t'as pas faite, histoire de pas me gâcher le plaisir.
Fun fact, c'est vraiment basé sur la mythologie plus que sur les planètes elles-mêmes parce qu'on n'avait pas autant de connaissances sur les planètes.
Oui,
parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qu'on sait des planètes en question, tu vois genre la paix, machin, alors que c'est une planète où il y a genre un turbo bizarre acide et machin, tu fais ça. Ah, on n'était pas au courant. Et ce serait assez intéressant qu'il y ait un compositeur moderne qui recompose ça.
Le caractère de chaque
avec
planète.
Avec ce qu'on sait maintenant des planètes elles-mêmes sans passer par là.
J'avoue.
Ouais, si un compositeur nous écoute.
Peut-être demander à Jules, je crois qu'il n'est pas trop occupé en ce moment.
Par exemple.
Et bah, très bien. Merci, est-ce
c'était,
que...
ouf, c'était trop bien.
Bah, cool, merci. Est-ce que ça serait pas le temps d'un petit pourquoi?
Allez,
pourquoi pas?
Mais pourquoi du coup?
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Pourquoi? Alors, pourquoi, bon Dieu?
Bah, c'est pourquoi, bon. Quoi?
Bah, pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
On n'y a jamais rien à voir.
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi? Je ne sais pas en plus!
Vous savez très bien pourquoi!
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a bam 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 bam! Et
tagalagalagalagal! Et oui, et on va se demander pourquoi?
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 Pourquoi tout ça?
T'as fait du R&B. Pourquoi? En plus, je suis sûr que t'as mis la main sur ton oreille.
Oh oui. Pourquoi? Mais bien non, mais pourquoi le jaune est la couleur de la poste?
Ha! Tellement hâte de savoir.
Vous êtes prêts?
Oui. J'ai une petite idée, mais vraiment, elle n'est pas politiquement correcte.
Vas-y.
Rapport au facteur. Ou si tu
et que c'est la couleur des cocus.
Ouais. Ah, non, il a chaud.
Moi, je pensais au Ricard qui prenait des pauses.
Ah non.
Non.
On est bien dans le stéréotype, on est bien.
C'est parce que vous savez, à la poste, enfin,
Moi, je pensais à du curry, mais.
Non. Depuis très longtemps, tu glisses ton enveloppe dans la boîte jaune.
Oui.
Et le jaune se voit de loin. Voilà. Non, mais il y a aussi une autre raison.
Ah ouais, donc si t'avais la flemme, fallait le dire, Camille.
Non, non, il y a aussi.
Je pense qu'avec du violet pétant, ça marchait aussi, mais bon.
Il y a aussi une autre raison. Mais oui, c'est parce que le jaune, ça se voit de loin.
Attends, puis le jaune se voit. Attends. Source. Le jaune. Attends, tu nous as pas habitué à ça, Camille.
Source tes yeux, finalement.
Le jaune se voit de loin.
Non, puis le jaune, c'est une couleur qui fait une réaction très particulière à ton cerveau.
Le jaune, ça flash quand même plus que du gris, quoi.
Ouais, pas au cerveau de Macron.
Ça dénonce.
Ok.
Black politique.
Donc alors tu reprendras bien un peu de politique.
Et donc sinon.
Oui.
Au risque de vous étonner.
La vraie histoire.
Non, ça c'est une des vraies causes, hein, par contre. Hein. Mais au risque de vous étonner, ça date.
Du Moyen Âge.
Du Moyen Âge.
J'aurais dit Napoléon, tu vois.
Eh bien non, non, non. Ça date du Moyen Âge et plus précisément de la fin du 15e siècle, donc de la toute fin du Moyen Âge.
Pisser sur les facteurs.
Mais il n'y avait pas déjà la poste.
il y avait du courrier d'une manière ou
d'une autre. On était vachement malins au Moyen-Âge.
Mais il n'était pas encore là, Bernadette Chirac, avec les pièges jaunes.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais si.
Enfin, si, elle était déjà née au Moyen-Âge, probablement.
Je propose un deuxième carton jaune, exclusion d'Hichem sur coup franc.
Pourquoi les cartons jaunes, ils sont...
Vous voulez savoir, du coup, ou pas? Et donc, du coup, à la fin du Moyen-Âge, l'Empire d'Autriche, qui est quand même assez relativement gros. Et il y a un mec à la tête de l'Empire d'Autriche qui est, au passage, l'empereur, du coup, d'Autriche, et qui s'appelle Maximilien de Habsbourg. Voilà.
Ah, mais tu nous en parlais déjà, je crois.
J'ai probablement dû vous parler d'un Habsbourg à un moment ou à un autre. Et donc, ce Maximilien de Habsbourg, il constate que pour envoyer des messages dans son empire, comme son empire est très très grand et il représente à peu près l'équivalent de toute l'Europe centrale, c'est un peu la galère. Du coup, il va mandater une famille de nobles qui va devoir s'occuper de gérer la distribution du courrier un petit peu dans tout l'Empire en échange de monnaie sonnante et trébuchante. Et, étonnant ou non, les couleurs de Maximilien de Habsbourg, c'était le jaune et le noir. Ah. Sauf que le noir, pour les messagers à cheval, c'était
pas cool.
Mais ouais, c'était pas voyant.
Ça attire la chaleur.
Donc du coup, on décide de les mettre en jaune, couleur de l'empereur. Mmh. Et
ça va être super dur à faire, enfin, techniquement, à l'époque, sur les pigments, non?
Le jaune, non, ouais. Ça passe, je pense.
Okay,
non, c'était peut-être pas un jaune post-it, quoi, mais c'était
oui,
un... Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en Europe centrale, dans quasiment toute l'Europe, en fait, sauf l'Europe du Nord, donc les pays scandinaves, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, et bah, sinon, les boîtes aux lettres sont jaunes, parce qu'en fait, on a gardé cette habitude de la poste jaune.
Et tu avais le nom de cette famille qui s'occupait de ça, ou pas?
Non, aucune idée. Okay. J'ai pas... Ça doit se trouver, mais non, je n'en ai aucune idée. Voilà.
Merci Camille.
Eh bien merci.
Je vous en prie, l'info que vous aurez oubliée demain.
Oh oui, je t'avoue. Bah non, mais ça se voit de loin. Oh,
que j'aurais oublié demain.
C'est pas dur à reconnaître, pas à se souvenir. Mais cool, mais en plus ça fait un pont parfait, un peu un tout petit pont avec mon sujet. Ça vous embête pas que je le fasse?
Non.
Maintenant que tu
veux. Ouais, voilà, vous êtes pas chaud, vous avez déjà commencé à vous lever.
T'es lancé. Hein.
J'ai juste en train de commander mon Uber.
Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit.
Je bois à la mère nature, aux collines odorantes. Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
Et la Suède, vous l'aimez?
Oui, j'aime beaucoup.
Voilà.
Oh, super.
Donc, comme je vous en ai rapidement parlé, on va parler aujourd'hui de l'Allemannsraten. Petit sujet un peu nature, écolo, pour ma part. Ça faisait longtemps. Je me suis un peu permis.
Et d'actualité, je crois qu'ils sont en grande campagne, la Scandinavie, pour informer les gens là-dessus.
Alors, ouais, je ne sais pas forcément, parce que déjà, la Scandinavie, ça regroupe plusieurs pays.
Oui, je ne savais plus quel pays faisait la campagne. Mais...
Ben, je ne sais pas non plus. Mais moi, je vais vous parler plus particulièrement de la Suède, parce que c'est un peu difficile de voir de regarder tous les pays, parce qu'ils ont une législation différente. Mais déjà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Allemannsraten?
Tout à fait.
Oui.
Oui.
Ouais.
Non,
ah,
pas du tout.
Parce que moi, j'avais jamais entendu parler, je me suis dit, putain, je suis un grand naze.
Je me sentais seul, c'est tout.
Non, mais il faut, parce que moi, jusqu'à il y a 2 semaines, j'en ai pas entendu parler. Alors, je dis Allemannsraten, mais en fait, ça peut être Allemannsrat aussi. Et je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas,
ça a rien à voir avec les Allemands.
Non, alors, rien à voir. En suédois, parce que c'est vraiment mon exemple de référence, sinon, c'est galère, parce que ça aurait pu être en norvégien, machin, voilà. Donc, moi, j'ai gardé la Suède comme exemple, ça veut dire, enfin ça pourrait se traduire comme se balader ou errer, et en français c'est ce qu'on appelle le droit d'accès à la nature. Alors mes recherches ont montré que c'était aussi une série de bouffe chez Ikea.
Non.
Voilà, c'est véridique, j'ai vérifié. Donc il y a des pommes de la purée.
On s'en fout.
Je crois qu'il y a des boulettes de viande. Donc si vous cherchez Allemannsraten ou Allemannsrat, vous trouverez une série sur Ikea.
Du coup, manger Ikea, c'est un peu un retour à la nature?
Exactement. Non, en fait, c'est un constat qui était fait dans les pays scandinaves, selon lequel la nature, ils considèrent que c'est une ressource commune, et donc que tout le monde doit pouvoir y accéder, d'une manière ou d'une autre.
Et qu'ils en ont beaucoup.
Ah, ils en ont beaucoup, oui et non, on verra, j'ai mis quelques stats sur la fin. En fait, j'ai fait un petit comparatif avec la France sur la fin. J'ai fait un sujet plutôt court pour une fois, pour vous laisser le plaisir de découvrir ce concept par vous-même, parce qu'il y a des très belles images à voir. Mais en fait, ça ne tient pas qu'à ça, parce qu'en fait, c'est une loi qui est en vigueur dans certains pays scandinaves, qui est vraiment une loi inscrite dans le...
dans la loi.
Bah, voilà, dans les textes qui sont appliqués, donc c'est vraiment applicable légalement. Mais en fait, c'est issu d'une loi coutumière, donc avec des origines qui sont plus anciennes et pas clairement localisées. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est des pratiques qui étaient respectées et qui étaient maintenues par les populations qui étaient dans le coin jadis. Donc, ce qui est un premier point important, c'est que ce n'est pas une obligation qui a été amenée il y a 20 ou 30 ans, parce que je vais donner quelques dates après, mais c'est quelque chose qui était déjà appliqué dans le passé naturellement, en fait. Donc, il y avait déjà un petit terreau fertile sur lequel s'appuyer. Pour la Suède, donc, comme je disais, mon exemple de prédilection, en fait, ça a été inscrit directement dans la Constitution en 1974. Donc, c'est assez ouf. La Constitution, pour rappel, pour faire un gros truc schématique, c'est le cadre légal, c'est les méta-lois, on va dire. Si c'est inscrit dans la Constitution,
les
méta-lois. Okay. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, quelque chose qui est... Enfin, la Constitution, elle doit encadrer les autres lois qui sont faites. Donc, si c'est inscrit dans la Constitution, c'est-à-dire que ça va servir de base aux autres lois. Et donc, quand c'est inscrit dans la Constitution, généralement, c'est très important. Donc le ne pas tuer les gens, c'est mal, par exemple, c'est plutôt constitutionnel. Voilà. Le droit de voter, c'est constitutionnel aussi. Il y a plein de choses comme ça. Donc, en Suède, c'est carrément dans la Constitution. Et en fait, c'est pas tant défini que ça. C'est pas une loi qui est extrêmement complexe parce que justement, c'était déjà quelque chose qui était pratiqué par les populations auparavant. Donc, il n'y a pas besoin de préciser exactement ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Donc, c'est quand même, ça a quand même été un peu précisé avec le temps. Je vous ferai un petit historique aussi des dérives potentielles qui ont pu être observées. Mais ce n'est pas non plus la loi la plus compliquée de la Terre. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que permet la loi. Encore une fois, ça dépend des pays et des évolutions qui peuvent y avoir. Mais de manière générale, le droit d'accès à la nature, c'est quoi ? Ben, c'est déjà simplement de pouvoir circuler partout. Et quand je dis partout, ben, vous verrez un peu ce que ça veut dire par la suite. Mais circuler partout, à pied, à vélo, à ski, à cheval. Donc ça fait déjà.
Tu sens que c'est un pays scandinave.
Ouais, un petit peu. Ouais, les skis à Paris, c'est pas ouf. Mais voilà, à ski à cheval, mais pas avec des véhicules motorisés. Donc il y a déjà un certain respect de la nature, on en reparlera après. Mais déjà, c'est ouf de se dire qu'en fait, on a le droit de se balader partout, en fait, tout simplement. Mmh. Parce qu'on rappelle, ça peut être traduit par se balader ou errer. Donc on a simplement le droit de se balader partout. Et c'est
même sur une propriété privée ?
Ah non, ça fait partie des quelques limitations, tu verras. Là, je vais mettre un peu ce qui est possible et après ce que ça induit d'appliquer ce droit. Donc il y a aussi la possibilité de naviguer partout et même d'utiliser un ponton d'amarrage privé, donc pour peu qu'on n'empêche pas son propriétaire de l'utiliser effectivement. Mais en gros, on parlait de la Suède tout à l'heure et de Stockholm qui est blindé d'îles. Je crois qu'il y a 8 à 9% territoire suédois qui est composé de flottes en fait.
De fjords, surtout où tu dois circuler en bateau quoi.
Oui, voilà. Alors, quand je dis de flotte, c'est littéralement des territoires maritimes. Et donc, effectivement, tu peux te balader en bateau de partout. Mais donc, déjà, tu peux te balader comme tu veux, du moment que ce n'est pas un truc ultra polluant et que tu fais un barouf monstrueux. Mais en plus, si tu trouves une île qui a l'air sympa, bah, si un pont, un petit ponton, un petit port, on va dire, même s'il n'est pas à toi, bah, tu peux l'utiliser naturellement, sans souci, du moment que tu ne le détériores pas et que tu n'empêches pas ses propriétaires de l'utiliser. En parlant de flotte, c'est aussi possible de pêcher partout en Suède.
Sérieux ?
À condition d'avoir un permis de pêche, mais à la seule condition d'avoir un permis de pêche. C'est-à-dire que tu peux aller dans le centre-ville de Stockholm, si tu trouves un petit lac, un machin et tout, tu prends ta canne à pêche, tu la balances et tu as le droit de pêcher si tu as un permis de pêche.
Et d'ailleurs, dans les pays scandinaves, vous verrez beaucoup de gens pêcher en ville.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Et de gens se baigner aussi en ville, parce que tu as le droit, c'est un droit d'accès à la nature, l'eau est plutôt saine, et donc du moment que tu ne détériores pas, que tu n'abîmes pas la nature, tu as le droit d'en profiter, et du moment que tu ne te balades pas à poil aussi. C'est un détail non négligeable. Mais là, pour la pêche, par exemple, tu peux le faire partout, donc même en centre-ville, etc. Même dans des lacs qui sont privés, on reprenait le cas où hop, tu fais un petit tour en bateau, tu arrives sur une île qui a l'air cool, tu trouves, je sais pas, une forêt, un lac. Tu as le droit d'amarrer ta barque, tu as le droit de te poser, de faire un tour sur le lac, tu as le droit de balancer ta canne à pêche. Du moment que ce que tu vas pêcher n'est que pour ta consommation personnelle. Effectivement, si tu chasses le baleineau, non seulement c'est une espèce protégée, donc c'est pas cool, et en plus tu vas pas le pêcher pour ta consommation personnelle.
Ça dépend de ton appétit.
Ouais, oui.
Ça dépend de ta force aussi, parce
si
que
t'as une lampe à huile. Pêche,
Mais globalement, du moment que c'est ta consommation personnelle, si tu pêches une grosse truite pour la bouffer le soir avec ta famille, ça marche très bien, quoi. En parlant de récupérer des trucs qu'on peut bouffer, y a le droit de pratiquer la cueillette également, donc baies, champignons, noix. Encore une fois, tu te ramènes sur un petit champ qui a l'air chouette, tu vois des baies, des noix, j'en sais rien, t'as le droit de les ramasser, de les boulotter. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de le faire.
D'accord.
Du moment que c'est pour ta consommation personnelle, encore une fois, on en parlera pas de ce point particulier. Un point qui peut paraître surprenant, mais pas tant que ça, quand on commence à comprendre leur philosophie, t'as le droit de faire un feu. Donc,
peu importe.
Du moment que tu respectes certaines normes de sécurité, donc pas dans une période où il y a un. Enfin, dans une période.
Ouais, pas en plein été.
Surtout les périodes et les endroits. Donc, il y a des endroits où il y a des forts risques d'incendie. Donc, globalement, effectivement, tu fais pas de feu à ce moment-là. Mais tu as le droit de faire un feu. Du moment que tu fais ce qu'il faut pour le feu, donc il faut que tu aies des éléments pour l'éteindre à proximité. Il faut pas que tu quittes le lieu où tu as fait le feu tant que les braises ne sont pas assez froides pour, je crois, les manipuler à la main. En gros, si c'est trop chaud pour ta main, c'est que c'est trop chaud pour que tu partes. Mmh. Donc, il y a des règles comme ça. Mais j'ai regardé quelques documentaires, apparemment ça a l'air pas mal installé. Mettons, t'as des trucs à barbecue, t'as des endroits, t'as des poubelles dans les parcs, dans les différents endroits, pour mettre précisément ces éléments pour qu'ils jonchent pas les parcs de partout, mais qui en plus soient recyclés. Donc il y a vraiment des infrastructures qui sont mises en place. Et là, le feu, ça peut aussi servir pour faire des bivouacs, planter sa tente, son sac de couchage et dormir à un endroit. Et globalement, alors, on va y venir pour les limitations et les responsabilités, mais en gros, à partir du moment où tu n'es pas à portée de vue ou à portée de oui, donc où tu ne peux pas être entendu par les personnes, les propriétaires, tu ne peux pas être vu ou entendu par les propriétaires, tu as le droit de te poser et de mettre ta tente et de faire un barbecue avec tes potes, quoi.
Mais ça veut dire qu'ils ne sont juste pas au courant, quoi.
Non, c'est juste que t'es.
En gros, tant que tu fais pas chier, tu fais ce que.
En gros, faut pas être à proximité. Là, justement, j'arrive aux limitations. Faut pas être à proximité des habitations. Donc, si c'est leur habitation principale ou si c'est une habitation quelconque, bah, tu vas pas te mettre à 50 mètres parce qu'ils peuvent te voir, t'entendre, donc c'est pas cool. Tu vas impacter leur confort de vie. C'est pas que tu t'as pas accès à la nature, mais tu vas impacter leur confort de vie, donc c'est pas cool. Par contre, si tu pars à quelques centaines de mètres et que chacun est de son côté, et là, nous quatre, on pourrait partir, prendre une tente, se caler sur un terrain, quel qu'il soit. Personne ne peut nous empêcher de le faire.
Vas-y, je suis juste derrière toi.
Voilà. Non, mais je trouve ça plutôt cool et je parlerai après de l'impact culturel que ça va avoir, mais je trouve ça assez fou en fait comme façon de penser. C'est tout un paradigme qui change. Dans les limitations et responsabilités, en fait, donc il y a le fait de ne pas déranger les propriétaires, ni déranger ni détériorer dans tous les cas, parce qu'il faut prendre soin de cette nature pour que chacun puisse en profiter. Donc pas être trop à portée, etc. Si on utilise le ponton ou le port, etc., bah, on va pas y mettre 4 bateaux et si on l'empêche de rentrer chez lui, c'est pas cool. Et il y a l'obligation de préserver la nature. On parlait des feux, donc en fait, pour faire un feu, on n'a pas le droit d'abattre des arbres ou d'utiliser du bois vivant. On doit uniquement utiliser du bois mort qu'on va trouver par terre, etc.
D'accord.
On a interdiction totale de prendre une branche qui va être déjà sur un arbre.
Okay.
Donc là aussi, préservation absolue. Et puis une fois que le bois est mort, globalement, on peut très bien l'utiliser pour faire un feu, du moins qu'on balance pas.
Faire un feu avec du bois vivant,
c'est pas top.
Déjà, l'idée est pas ouf, mais surtout, dans tous les cas, c'est purement et simplement interdit. Dans les différents usages qu'on a vus, donc on a vu qu'il y avait la pêche, il y avait la cueillette, etc., il y a une interdiction totale d'en faire un usage commercial. Enfin, c'est pas une interdiction totale, mais c'est que la Lehmannstraat ne peut pas servir à faire valoir un droit commercial ou une exploitation commerciale. Donc, si on a trouvé un super coin à champignons, ça paraît logique pour que justement tout le monde, encore une fois, y ait accès et donner profite, à chacun des chances égales de jouir de cette ressource commune qu'est la nature.
Sauf si tu achètes l'endroit et la parcelle.
Dans ce cas-là, t'es propriétaire, voilà. Ou alors tu peux négocier des droits commerciaux, mais c'est pas le droit d'accès à la nature qui fait valoir cet accès.
Okay.
Il y a une petite anecdote d'ailleurs, il y a dans plusieurs pays, donc pas que en Suède, Norvège, et je me demande s'il n'y avait pas un peu en Finlande également, il y a eu des cas, en fait, des cas avérés, où depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il me semble, ils ont pu rencontrer quelques problèmes de temps en temps, où il y avait chaque année, il y avait des arrivages massifs de touristes, en fait, qui venaient spécifiquement pour faire de la cueillette, donc cueillir des baies qui étaient en libre service, et surtout plutôt rares dans les pays d'origine de ces touristes. Donc c'était principalement en Asie, il me semble, en tout cas dans les références que j'ai pu trouver, et qui venaient pour faire de la cueillette massive et qui s'en servaient par la suite. Mais le fait est que la plupart du temps, quand ces histoires remontaient, elles étaient très teintées de xénophobie, donc on ne sait pas exactement si c'était un ras-le-bol des propriétaires et lié au fait qu'ils se faisaient spolier leurs ressources, ou bien une xénophobie plutôt basique qui voulait balancer les touristes en dehors de chez eux. Enfin, les touristes étrangers, de fait, sinon c'est pas tout à fait touristes. Enfin, si, mais bref. Parce qu'à chaque fois, c'était pour des touristes étrangers. Donc, très souvent, ces histoires étaient liées à des cas de racisme ou de xénophobie. Et donc, on ne sait pas exactement faire la part des choses, mais il y a, même si c'est un droit et une pratique qui sont plutôt instaurés dans ces pays, il y a quelques remontées qui ont pu être faites, mais souvent ces retours sont problématiques. Et enfin, donc encore une fois, sur le côté commercial, c'est impossible de profiter de cette loi pour commercialiser quoi que ce soit. Donc, par exemple, une agence de voyage ne peut pas, si elle a trouvé une petite clairière plutôt cool, ne peut pas commercialiser des séjours de camping ou des balades guidées, etc. On n'a pas le droit.
De se faire de la thune sur ça, quoi.
Exactement.
Mais c'est très bien.
Donc, si toi, tu veux te balader et regarder les oiseaux et faire des photos, très bien, fais-toi kiffer.
Mais il ne faut pas payer quelqu'un pour
qui t'emmène. Par contre, tu n'as pas le droit de te faire payer pour être guide dans cet endroit-là. Mmh. Et donc, c'est plutôt chouette.
Bah oui, c'est cool.
Ouais. Le gros changement, en fait, la grosse particulier, ça, au début, ça peut paraître plutôt simple, mais l'énorme différence qu'on peut trouver par rapport à la France, par exemple, et à d'autres pays, bien évidemment, c'est que, en fait, c'est un comportement par défaut. Donc, c'est-à-dire que la loi, comme c'est défini et inscrit dans la Constitution, par défaut, tout le monde accède à la nature. Et donc, le droit de ça peut prévaloir sur le droit de propriété. Et donc, en fait, c'est pas forcément inné, c'est que c'est le cas par défaut. Et après, les cas où on n'a pas accès à certaines parties, ça, c'est cas particulier.
D'accord.
Alors que si on regarde, je parlerai de la France tout à la fin, là, c'est plus le cas particulier. Enfin, le cas particulier, c'est l'accès à tous. Et le cas par défaut, c'est souvent le droit de propriété, en fait. Donc ça, c'est assez fou et ça change tout un paradigme. Ça fait que par défaut, on a accès à tout et le droit de propriété ne peut pas empêcher quelqu'un d'accéder à une parcelle. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne peut pas, mettons un propriétaire qui va avoir 12 hectares, qui ne sont pas forcément des terres cultivables, parce que bien sûr, sur les terres cultivables, on n'a pas le droit de faire tout ce que j'ai décrit avant, parce qu'il faut quand même protéger les cultures. Mmh. Mais voilà, quelqu'un qui va avoir une énorme forêt, qui en fait, je ne sais pas, plutôt rien, on va dire, n'a pas le droit de mettre des barrières, par exemple, autour pour empêcher les personnes d'y aller. Pas le droit d'empêcher les personnes d'utiliser des chemins, des terrains, etc. Donc il y a aussi des règles qui sont mises en place avec ça. Donc par exemple, s'il y a des barrières pour le bétail ou des trucs comme ça, il y a ça se fait en bonne intelligence et les gens ouvrent la barrière et la referment derrière eux, ou quand ils trouvent la barrière ouverte, la referment pour pas que le bétail s'échappe ou ce genre de choses.
Okay.
Mais dans tous les cas, il faut laisser un moyen au public et à la population d'utiliser. Et c'est bien. Bah pourquoi ? Donc après, j'ai parlé du cas de la France, enfin de deux points particuliers de la France. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça peut avoir l'air un petit peu anodin de juste se dire « Oh bah c'est cool, on peut se balader ». Mais en fait, c'est ouf, parce que s'il n'y avait pas ce droit d'accès à la nature pour toutes et tous, bah en fait, ça veut dire que les propriétaires, et vous verrez les stats en France, les propriétaires pourraient déjà avoir une mainmise sur la nature et empêcher déjà certains types de population, une partie de la population d'y accéder. Et qui dit pas d'accès à la nature, dit que en fait il y a toute une partie de ta culture qui est biaisée. La majorité des passions et des carrières qui se sont lancées dans les carrières écologiques ou de ce genre de choses, c'est des personnes qui ont été sensibilisées suite à un voyage, un contact à la nature, ce genre de choses. Donc si on n'a plus accès à la nature, on n'a plus forcément conscience qu'elle est là, on n'a plus forcément envie de la protéger, de faire d'autres choses, et on voit pas forcément d'animaux, d'animaux, de végétaux, etc. Donc c'est toute une éducation à laquelle on n'aura pas forcément accès. Donc c'est en tout cas, personnellement, ça me paraît important que tout le monde y ait accès, et je trouve ça plutôt chouette. En France, on a quand même la chance d'avoir des espaces accessibles et tout, mais on n'a pas un droit absolu dessus, et je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, j'ai parlé du cas de la France. Donc tu parlais de la nature qui était très très présente en Suède. Effectivement, il y a quand même un petit déséquilibre notable. Donc, si on prend la France dans sa globalité, on a une. Alors, j'ai pris la densité parce que ça me paraissait.
On est très pris en surface, nous, en oisé, en France.
Alors oui, mais.
Vous avez les Vosges, quoi, c'est tout.
non, pas mal de trucs. Enfin, mine de rien, pas mal de trucs. Mais en fait, j'ai pas regardé ça exactement, j'ai regardé surtout le terrain, en fait. Parce que globalement, la nature est censée être partout. Après, on construit, on fait de la merde, mais la nature est censée être partout à la base. Donc, en France, on a une densité de 100 habitants par kilomètre carré. Qui est une information brute. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, je ne savais pas trop quoi en penser. Par contre, ce qui paraît intéressant, c'est que quand on regarde uniquement la France métropolitaine, donc juste les terres qu'il y a entre la Bretagne et la Corse
quoi, compris.
Je ne crois pas, je ne sais pas. Bon, après, par rapport à tout le reste de la France non métropolitaine, la Corse est petit, je pense. Hein.
Oui.
Mais bon, ce qui est notable là-dedans, c'est que justement la France métropolitaine, enfin si on prend seulement la France métropolitaine, on va se couper de ressources naturelles qui sont démentielles. Mm-hmm. Et en fait, si on regarde que la France métropolitaine, justement, ça se voit très clairement parce que la densité monte à 118 habitants par kilomètre carré. Donc il y a une densité qui est plus haute de quasiment 20%. C'est énorme. Donc clairement la France que la plupart des gens connaissent, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup qui s'aventurent en dehors de la France métropolitaine, il y a une densité qui est assez importante, surtout comparativement à la Suède par exemple, parce que la densité de la Suède, est-ce que vous avez une petite idée?
Là, densité.
Densité, ouais.
30-35.
Ça a l'air grand quand même. Moi j'aurais dit moins.
En fait, il y a des villes denses, mais il y a des étendues énormes.
Oui, j'avoue. Bah, 15, ouais, peut-être même.
Ouais, dans ce zoo-là
23.
23,
ouais, okay. Donc c'est quasiment 6 fois moins que la France métropolitaine. C'est ouf. Donc certes, ils ont plus de nature, donc en fait, enfin plus d'espace en fait par personne. Mm. Donc il y a possibilité d'en profiter sans déranger les autres. Mais je pense tout de même qu'il y aurait moyen de faire quelque chose d'un petit peu différent en France, même s'il y a quand même des efforts qui sont faits. Alors pourquoi ça serait important? Parce qu'on peut se dire oui, mais bon, donner accès à tout le monde, tout ça, ça peut être compliqué, etc. En fait, si on regarde en France, donc il y a je peux peut-être vous faire deviner, à part Camille qui a une vue sur mon écran. Mais est-ce que vous savez déjà que à qui appartiennent les forêts et les montagnes en France?
À l'État.
Non, à plein de propriétaires privés. Il y a énormément de gens qui ont des parcelles.
C'est un investissement comme un investissement immobilier.
Tu revends ton bois, tout ça. Ouais.
Ils sont gérés par l'ONF.
D'ailleurs, l'ONF a des soucis en ce moment, mais pas forcément géré par l'ONF, parce qu'il y a une privatisation qui se met en place. Donc l'ONF, c'est l'organisme national des forêts.
Organisme national des forêts.
Ouais, ça doit être ça. Et en fait, oui, moi, ce qui m'a surpris il y a quelques années, c'est que j'ai appris que les montagnes et les forêts avaient des propriétaires privés. C'est-à-dire que quand on va faire de l'escalade sur une montagne,
chez quelqu'un.
Voilà, on est chez quelqu'un, donc on s'est déjà fait dégager par des chasseurs, par exemple. Ah, bonjour à vous. Mais ouais, t'es chez quelqu'un, donc Petit détail, quand on est propriétaire d'un terrain sur une montagne, par exemple, on n'est pas propriétaire de toute la montagne. Mais par contre, on a le droit de propriété, d'accès et pas forcément d'exploitation, je crois. Donc on n'a pas toute la montagne avec tout ce qu'il y a en dessous, mais on peut interdire en fait aux gens d'y accéder.
Après, il y a pas mal de forêts communales quand même. Souvent, alors, quand tu rentres dans une forêt, il y a écrit forêt communale de et t'as le nom du bled derrière.
Justement, à votre avis, le pourcentage de forêts privées publiques?
Je pense qu'il y a plus de forêts privées que publiques.
Ouais. Quand je dis public, c'est ça appartient à l'État, hein, globalement.
Bah, moi, je pense qu'il y a genre 60% de forêts privées.
Sur les forêts, donc, à mon avis, il doit y en avoir beaucoup en privé maintenant.
Ouais, je pense.
Quel pourcentage en privé?
Moi, je dirais 60%.
Ouais, peut-être dans ces eaux-là.
75%.
75%.
Ah putain, c'est énorme quand même.
Il y a 3 quarts. C'est en superficie, bien sûr. Donc, il y a 75% de la superficie des forêts qui appartient à des privés. C'est-à-dire qu'en fait, en France, ils ont tout à fait le droit d'installer des barrières tout autour de leur forêt et de dire vous ne rentrez pas. Ils ont aussi le droit, s'ils n'ont pas indiqué d'interdiction d'accès à leur forêt, s'ils vous trouvent dans la forêt, de vous dégager. Coup de pied au cul s'il le faut.
Ouais, en Franche-Comté, ça m'arrivait en allant cueillir des champignons. Et tu vas juste cueillir des putains de cèpes et le mec, t'es chez moi. Calme-toi, c'est donc, la forêt.
Ils ont non seulement le droit de couper l'accès, ils peuvent indiquer que l'accès n'est pas. L'accès est interdit, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et une fois qu'ils vous trouvent, ils peuvent vous dégager. C'est-à-dire que si vous voulez aller, je sais pas, camper ou balader en forêt avec votre gamin, vos amis, votre famille, etc., ben en fait, à 2h du matin, il y a un putain de propriétaire ou un putain de chasseur qui peut venir vous dégager et il est tout à fait dans son droit. Donc c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais ça peut être flippant de se dire qu'en fait, il pourrait y avoir 3/4 des espaces verts de France qui sont plus accessibles. Ça peut être un peu problématique pour le fait de découvrir. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais gamin, on faisait des balades en forêt. C'était dans une école où il n'y a pas de... Enfin, balade en forêt avec l'école, je veux dire. Mmh. Donc si ça nous a permis de découvrir la nature, les champignons, les machins. Si tu n'es pas dans un endroit où il y a des forêts publiques autour, tu peux simplement ne pas avoir accès à ces espaces. En France, il y a un truc qui est un peu protégé, c'est le littoral. Depuis la fin du 19e siècle, il y a une loi qui fait que il y a une certaine protection là-dessus. Depuis la fin du 20e, si je ne dis pas de bêtises, ça a un petit peu changé pour permettre un peu plus son exploitation et donc avec expansion du tourisme, etc. Donc, il reste possible aujourd'hui de faire une demande de droit à l'usage commercial auprès de la préfecture, donc pour avoir exploité des plages et donc faire ce qu'on appelle une plage privée. Mais on ne peut pas entièrement privatiser une plage, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui encadrent l'exploitation du littoral.
Sauf si c'était un prince saoudien.
Oui, j'ai vu cette anecdote justement, qui avait entièrement privatisé parce que les risques de terrorisme étaient trop forts, je crois. Littéralement.
Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est agréable en France quand même. C'est qu'il y a quand même beaucoup de plages qui sont belles, qui sont gratuites, où tu peux t'installer. Tu vas en Italie, c'est l'enfer. Italie, tu as énormément de plages payantes.
Donc, ce que dit la loi, je ne vous ai pas mis toutes les stats parce que c'est un petit peu chiant, mais je crois que c'est Le Monde qui a fait un article dessus qui est très très bien, enfin qui est très clair en fait, avec un magnifique schéma. Mais globalement, une installation privée sur une plage ne doit pas empêcher qui que ce soit de traverser la plage de bout en bout. Donc ça ne peut pas prendre tout un côté et empêcher le passage. Et une fois que l'installation est faite, déjà, on peut très bien s'installer à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Il n'y a pas de raison pour que quelqu'un de l'établissement privé nous empêche l'accès. Et enfin, tout ceci doit être temporaire et démontable. Et ça pourrait être dégagé entre les saisons pour ne pas dénaturer la nature, hein, globalement. Et ce qui est cool, c'est que au moins pour les plages françaises, personne ne peut vous demander ni carte de membre, ni de payer un droit d'entrée.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On a besoin de plus de nature.
Suite à ça, je défends vraiment l'Allemannsraton parce que le droit d'accès à la nature maintenant,
c'est du bon sens, tout simplement.
Enfin, mais c'est plutôt chouette.
Curieux, il faudra que je regarde de mon côté ce que ça représente en matière d'investissement. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est les investissements privés. Parce que c'est-à-dire que les portions de forêt ne sont pas achetées par des gens qui y vivent ou qui vont fliquer. Elles sont achetées par des gens parce qu'on peut exploiter le bois qu'il y a dessus, etc. Oui. Il y a une rentabilité, c'est un investissement, comme acheter une maison, comme laisser des sous à la banque, en fait.
Alors, t'as raison, parce que les stats que j'ai avancées, parce qu'elles sont sourcées, mais que j'ai présentées, j'ai pas parlé de ce qu'on faisait de chaque parcelle de forêt. Donc, il y a de l'exploitation forestière, il y a plein de choses. C'est pas que des terrains de balade, on est d'accord.
Ces terrains-là, ces terrains qui, à mon avis, représentent la majorité, ne seraient pas grillagés typiquement, parce que le but, c'est qu'ils restent accessibles pour l'exploitation du bois, tout simplement.
Oui, et puis il ne faut pas oublier non plus que, déjà, avec les droits d'accès à la nature, s'il y a une exploitation commerciale, donc mettons de la coupe de bois ou des champs, des trucs comme ça, on n'a pas le droit d'y accéder. Très simplement parce que ça peut être dangereux et que y a des risques sanitaires. Donc pas de souci. Et puis aussi, on va être honnête et franc. privé ne veut pas dire démon. Donc c'est pas parce que c'est privé que la personne va forcément mettre un enclos, etc. Donc c'est pas non plus Babylone.
Parce que j'ai passé mon enfance à aller camper sur des terrains privés personnellement.
Oui, puis enfin il y a des.
J'ai fait réveiller deux fois peut-être par un mec qui avait vraiment que ça à foutre. Mais.
Oui, il y a des propriétaires qui peuvent être très cool et il y en a qui vont justement faire ça parce que bah, l'État mine de rien manque de thunes pour s'occuper de ces espaces. Il y en a qui vont très bien s'en occuper, aucun souci. Mm-hmm. Et puis après, voilà, je vous laisse faire les recherches. Toi, j'ai fait un sujet plutôt court sur ce que vous pouvez faire dans les espaces publics, les parcs nationaux, naturels, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont accessibles, qui sont très très belles. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de profiter de cet été et de l'automne pour aller ramasser des baies et ramasser des champignons cet automne.
Oui.
Et de simplement vous dire que c'est cool de savoir que ça existe et que vous n'êtes pas obligé de regarder un documentaire sur National Geographic pour savoir que ça existe.
Je me permets de vous conseiller au passage un petit film rigolo sur Netflix. Non, c'est un film qui s'appelle The Forest. C'est un film, attention, c'est un film un peu épouvante, horreur pour les sensibles. mais qui se passe, donc, c'est des touristes en fait qui vont en Suède, si je ne dis pas de bêtises, justement, pour profiter de ce droit à la nature, aller se balader et rejoindre une ville en passant par la forêt. Mais malheureusement, il leur arrive quelques tuiles.
Ah, très bien, on aime bien ça. Et puisqu'on en est aux recommandations, bim rien à voir. Moi, je vous recommande, parce que j'ai trouvé trop cool, la dernière saison de Last Chance You. Oui, je vous fais encore chier avec ça.
Putain, mais c'est la huitième fois que tu nous en
mais
parles.
Mais oui, mais parce qu'il y a une saison qui est sortie il n'y a pas longtemps, sur un documentaire, c'est une série documentaire sur des écoles de football, enfin des écoles avec une équipe de football américain.
Ah, j'ai pas du tout accroché.
Ah, moi j'adorais. Mais voilà, en tout cas,
c'est un débat pour un autre jour.
Regardez, faites-vous votre idée, mais moi j'ai trouvé ça ouf. Humainement, c'est monstrueux ce qui leur arrive. Mais c'est très chouette. Si vous avez une reco, c'est le moment. Voilà.
Oui.
Voilà.
Friends, c'est une valeur sûre.
Moi, j'ai réécouté Trio récemment. Aucun rapport avec le sujet, mais.
Non, aucun.
Très bien.
Très bien. Sur ce, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on se retrouve bien. On vous embrasse.
C'est un détecteur de colère.
Portez bien.
Encore merci, JB.
Flaflos.
On partage ça. C'est une connerie.
Je dis ça, c'est enculé.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.